Mike avec Audrey Pinchot. Un espace pour les vraies histoires, les vraies questions, les vraies émotions. Un rendez-vous incontournable de Boulevard 102.1. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
11h02 dans le Point de Max à Boulevard. C'est 4 degrés à Québec. On attend un maximum de 9 aujourd'hui avec 40 % de possibilité d'averse. Demain, jeudi, c'est 11 degrés, 60 % de possibilité d'averse. Vendredi, on monte à un gros 15 degrés avec de la pluie intermittente. Et on se rend à samedi parce que samedi, ça va être la plus belle journée du printemps jusqu'à présent. C'est un 15 degrés. Avec un gros soleil. Fait que d'après moi, si vous ouvrez les fenêtres samedi, vous allez sentir le barbecue. Si c'est pas vous-même qui êtes en train de faire du barbecue. Moi, ça va être mon cas. Là. Je sais que quand j'ouvre les fenêtres et qu'il fait beau dans mon condo, ça m'énerve un peu parce que ça sent le barbecue. Puis moi, je n'ai pas de barbecue. Fait que c'est bien plate. Audrey Pinchot, samedi, vas-tu faire un barbecue?
Ben peut-être.
M'invites-tu?
Peut-être.
OK.
À voir.
Kat Bacham m'a déjà invité, mais je suis en train de me donner le plus d'options possible.
Ben, mon Dieu, si tu as la chance de te faire à manger par Kat Bacham, par exemple, tu te dis pas non.
C'est vrai?
Ben,
elle m'a jamais fait à manger. Elle est bonne cook?
Ben oui, elle est bonne okay. cook. Surtout, c'est Kat Bacham.
Ben,
Kat
oui.
t'invite à manger, tu
dis pas non.
Pas, là.
Bon, voyons, parfait.
Max, hey,
OK, parfait. Minute, ben, Kat Bacham, on se voit samedi. Ben, puis aussi, demain à 10h dans le Point de Max, puis vendredi 10h dans le Point de Max, là. Mais après ça, on se voit samedi.
T'es chanceux, mon Max?
Ah, je sais, je suis un homme chanceux. Audrey Pinchot, c'est l'heure de l'open mic. De quoi on parle aujourd'hui?
Oui, bien, c'est un open mic où, je vais être vraiment honnête, je me sens un peu stressée.
C'est-à-dire?
Parce qu'on parle à quelqu'un qu'on connaît. Puis c'est rare quand même qu'on amène des gens pour parler d'affaires un peu plus personnelles, je vais dire, mm-hmm. en ondes. Fait qu'on dirait que tu veux pas mal faire, tu veux pas piler sur des œufs. On a des stagiaires depuis à peu près 2 semaines à Boulevard 102.1 qui sont pour le Clair Communication en réalité. Donc, qui sont vraiment pour Boulevard et notre station Sœur Week-end. Ariane Bourbeau, qui est une de nos 2 stagiaires, on parlait ensemble la semaine passée pour un potentiel dossier pour l'open mic. J'étais comme intéressée de jaser avec des gens qui vivaient, mettons, une vie post-accident, tu sais, voir les orthèses, les prothèses, on est rendu où dans l'évolution. Tu sais, je voulais comme un peu me tremper dans ce bain-là. Puis à force de jaser, Ariane m'a confié que elle faisait affaire avec l'IRDPQ, qui est un endroit justement où les gens qui ont toutes sortes de conditions vont pour être traités souvent des fois à vie parce qu'elle a une condition rare. Ariane a une souche de maladie dégénérative qui fait en sorte que son futur peut être hypothéqué. Puis là, plus on s'est mis à jaser, plus je me suis dit, mais là, au lieu d'inviter n'importe qui, viens t'asseoir, on va jaser. Ben oui, fait qu'on va lui laisser le micro ce matin, Ariane. J'avais envie qu'on rentre un peu dans son quotidien. Puis qu'on réalise tout ce que ça implique être malade socialement, monétairement. Puis Ariane a une souche qui fait en sorte que c'est pas tout qui est couvert, c'est pas tout qui est reconnu. Fait que ça rend les choses compliquées. Premièrement, Ariane, bon matin.
Hey, bon matin.
Est-ce que tu es stressée, toi, de au grand jour, je vais dire ça comme ça, parler
ouais.
de ta maladie?
Ben, en tant que jeune stagiaire et tout nouvelle à Leclerc Communication, c'est spécial de dire que mon premier temps de micro, ça va être pour dire que je suis pas une employée comme tout le monde.
Est-ce que c'est quelque chose qui te stresse au day-to-day de devoir composer avec la maladie? Puis on va prendre le temps de l'expliquer, mais j'imagine que ça a des impacts sur ton quotidien et donc que tu dois penser tout le temps un peu à ton futur puis au métier
ouais.
que tu vas faire. Puis...
Oui, ça a eu un gros impact sur ma décision du métier que j'allais faire parce que moi, je me suis mis en tête à 18 ans que j'allais être ambulancière.
Impossible avec ton...
Impossible. Mais ouais. J'avais vraiment décidé que ça allait arriver. Je me suis entraînée comme une folle. J'ai été admise. Et c'est ça, là, après, j'ai réalisé que non, ça sera pas possible. Là. Mais ça a le fait que j'ai dû réfléchir un peu à je suis qui, je suis quoi, je vais faire quoi dans la vie, puis quel métier je peux faire, même si un jour, peut-être, ma mobilité va être moins à 100% là. Mais moi, ça, j'y crois moins dans le sens où je me fie pas aux statistiques, donc on y revient.
T'as le moral positif. C'est quoi exactement ta maladie? Ça s'appelle le syndrome d'Ehlers-Danlos. Peut-être que
ouais.
tu peux nous éclairer un peu, parce que personnellement, c'est la première fois que j'entendais parler de ça.
Ouais, c'est pas super connu, c'est quand même, c'est rare. Puis en fait, le syndrome d'Ehlers-Danlos, c'est une maladie qui touche les tissus conjonctifs et tout ce qui est collagène, donc l'élasticité de tes ligaments. Puis là, on se dit, ça fait que tu as juste des blessures, mais les ligaments, c'est autour de tes organes. C'est ce qui fait fonctionner toute ta machine, ouais, en fait.
Oui, absolument.
Fait que ça fait que tout mon corps est très mal soutenu, et dont tout ce qui est à l'intérieur de moi, là, mes organes. Donc, ça vient avec une panoplie de dysfonction au niveau du système.
Tu vois, en faisant des petites recherches, là, le parallèle que j'ai trouvé, c'est imagine que la colle qui tient tes os, ta peau, tes organes est de mauvaise qualité. Fait que tu as des bouts qui lâchent de temps en temps. C'est à peu près ça?
C'est à peu près ça. Bon, on dit souvent, ça demande beaucoup d'énergie au corps, beaucoup plus qu'une personne normale, mettons, si on peut dire ça en guillemets, pour fonctionner quotidiennement. Fait que tous les matins, c'est de se battre avec ton corps qui te dit non. Lève-toi pas. Puis toi, t'es comme, oh oui, je vais me lever. Certain que je vais me lever, puis je vais tenir jusqu'à la fin de la journée parce que je suis comme tout le monde, puis j'ai envie de me lever pour avoir une raison de le faire. Fait que c'est de se motiver, mais c'est un peu comme un vieux cellulaire. Tu sais, ton iPhone que tu charges pendant comme 4 heures, après tu le débranches, puis il dure 10 minutes, puis là, t'es comme, voyons.
La batterie se vide vite.
Oui, là, je viens juste de le brancher. Fait que moi, je dors, écoute, des nombres de temps absurdes. Je pourrais dormir jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Je me lèverais, puis 15 minutes après, je te dirais, je suis tellement fatiguée.
Fait que ça a des impacts comme ça, il y a des symptômes au quotidien. Ça fait-tu mal? Est-ce que tu ressens une douleur dans ton corps?
Ça vient avec un syndrome de douleur chronique.
OK.
Donc, j'ai mal partout, comme si j'avais fait un gros entraînement.
Tout le temps?
Tout le temps. Mais tu t'y habitues. Tu sais, ta tolérance à la douleur est différente des gens parce que tu as tout le temps mal. Moi, je pensais que c'était normal avant d'avoir mon diagnostic. Je pensais qu'on expérimentait tout ça, que le matin, on se disait tout, j'arriverai pas à me lever, j'ai mal au dos. Après, j'ai appris que non, que vous vous levez, puis c'est correct.
Jusqu'à à peu près 40 ans, normalement, on s'en sort bien, là.
Tu sais, moi, je pense que j'ai commencé à dire que j'avais plus 20 ans à 10 ans.
Ah, mon Dieu. Puis, y a-tu des exercices? Y a-tu des choses que tu dois faire pour essayer de t'aider dans la journée? Médication, je sais pas.
Il y a une panoplie d'affaires qu'on va te proposer, mais la vérité, là, la façon plate de le dire, c'est qu'il n'y a pas de traitement. Puis moi, j'ai une mutation de la maladie, donc je suis comme une petite source orpheline.
Okay.
Ça fait que je fais jamais tout comme tout le monde. Là. Fait qu'on peut pas vraiment se fier aux vraies statistiques du syndrome ou type nécessairement auquel je me colle. Donc, il n'y a pas de traitement magique. Faut apprendre à régler un problème à la fois, une petite douleur à la fois ou un problème d'organe à la fois. Là, le médecin va aller le viser principalement, mais il n'y a pas une médication qui règle tout le système au complet.
Quand on a commencé, tu disais que tu voulais être ambulancière, puis là, tu disais non, je vais réussir, je vais y aller, puis tu dis à un moment donné, je me suis rendu compte que ça pourrait pas. Ouais. Ça arrivait comment à ce moment-là? C'est-tu que tu as juste fait comme. Puis, c'est-tu qu'avant ça, tu le savais, mais tu voulais pas te l'admettre, puis qu'à un moment donné, tu as juste frappé le mur de OK, là, ça peut plus.
Ouais. Avant de rentrer pour les tests, parce qu'il y a des tests physiques là, pour faire ambulancière, j'ai commencé un entraînement vraiment intense. Dans ce temps-là, je sortais avec un gars qui est dans la SQ. Fait que lui aussi, il s'entraînait vraiment intensément parce qu'il devait avoir quand même une bonne condition physique. Puis pendant l'entraînement, je me suis déchirée le doigt. Il n'y a rien qui allait. J'ai continué à m'entraîner. J'ai fait les tests avec un doigt dans le plâtre. Puis là, plus l'entraînement avançait, puis plus je réalisais que si réussir à passer les tests est difficile comme ça pour mon corps, j'ai 18 ans, ça va être quoi à 30 ans? Puis tu sais, je me projette pas loin. Là, 30 ans, tu n'es pas proche de prendre ta retraite. Là, je me projette... Non. Proche, puis je sais déjà que ça va être difficile. Ça va être quoi dans 2-3 ans?
Soulever des gens.
Mon père, il faisait des blagues en disant, tu sais, Ariane, je doute pas de la capacité mentale que t'as pour le faire, mais physiquement, on est dans la merde. Tu t'en vas sauver quelqu'un, sortir du fossé, puis c'est toi après ça qu'on doit ramener en ambulance.
Ça
parce
peut pas,
que
là.
Tu t'es déboîté deux épaules. Ça m'a pris du temps parce que j'avais vraiment envie de me prouver que j'étais capable de le faire. Je l'ai faite, j'ai été admise, sans liste d'attente, rien, j'étais prise. Puis c'est là que j'ai fait, OK. Je l'ai faite.
Ouais.
Je pourrais rentrer. Là, maintenant, il est temps d'être réaliste.
Faut que tu prennes soin de toi là-dedans.
J'aide personne. J'aide pas mon prochain si je m'en vais être une lacune pour le système. Donc, faut se...
Tu l'as dit, t'as une souche orpheline de la maladie, de la condition de l'air d'Anlos. Est-ce que c'est... Plus, je m'excuse, c'est une question qui est quand même rough, mais est-ce que c'est fatal? Jusqu'où ça va? Si t'es capable de nous dire, mettons, là, t'es début vingtaine... C'est quoi ton horizon? Comment les médecins t'expliquent l'évolution de ta maladie?
Ils l'expliquent pas. C'est un peu un genre de néant. Moi, je le vois comme je suis hyper chanceuse parce que puisque je suis orpheline, il n'y a pas de vraies statistiques qui me collent. Donc, j'ai pas besoin de voir de fatalité parce que je suis exceptionnelle.
J'adore ça! Non, c'est beau!
Mais je dirais, il y a quand même des pronostics, là, difficultés à se déplacer. On parle ici de chaise roulante ambulatoire. Donc, je vais quand même pouvoir continuer à me lever, faire des déplacements plus courts, mais peut-être. Puis moi, j'aime toujours ça prendre le mot peut-être. Peut-être qu'un jour, j'aurai une chaise roulante et alors elle sera rose. Mm. Peut-être qu'un jour, j'aurai besoin d'une canne, puis peut-être pas. Parce que la médecine avance. La médecine a avancé entre le jour où j'ai eu mon diagnostic puis maintenant. Puis moi, ben, j'ai tout le temps fait les choses différemment des autres. Fait que je le vois pas comme une fatalité, mais il n'y a pas de fatalité mortelle, comme on dit, dégénérative sur les conditions. Ça va être plus difficile. Je vais avoir besoin d'opérations. J'ai déjà eu une opération pour mon doigt où là, on a comme été raccourcir le ligament, une affaire bien complexe. Je vais en vivre une autre pour mon autre doigt. On a parlé pour les épaules, on a parlé pour les genoux. Je le vois, là, c'est une réalité. Ce ne sera pas toujours facile. Mais moi, je crois vraiment que dans la vie, si tu as envie de le faire, tu vas le faire. Je vais le faire. Mm. Genre, je vais être derrière un micro encore, puis au pire, je le serai avec le bras dans le plat. C'est pas très stressant.
Ben écoute, ça te prend juste tes cordes vocales. Fait que si les cordes vocales vont bien, t'es en business pour une couple d'années.
Puis même, certains pourraient dire, les cordes vocales, c'est pas toujours aussi important que ça, hein, Audrey?
Oui. Écoute, même affecté, tes cordes vocales peuvent fonctionner comme chuchote à l'oreille.
Oui, ah oui, oui. Ici, on le prouve.
Le parcours, j'ai envie qu'on en parle un peu. Parce que là, tu m'as jasé de plein d'affaires. Tu sais que l'attente pour voir un généticien, ça a pris 8 ans. T'es entré il y a 5 ans à l'IRDPQ. Et puis là, ben, tu vas entrer prochainement en juin voir des spécialistes rares de la maladie qui sont rarement ici à Québec. Ouais. Tu vas intégrer un groupe de rééducation pour l'hypermobilité, etc., etc. À quel âge tes parents, toi, peu importe, vous êtes rendu compte qu'il y avait un certain problème? Parce que j'imagine que pour en venir à être capable de trouver que tu as une souche orpheline d'une maladie qui est déjà rare, il faut qu'il y ait des signes.
Hey, ça a été toute une montagne russe, puis... Moi, mes parents, là, je les ai proches de mon cœur parce que ils se sont battus pour qu'on comprenne ce que j'avais. Puis quand les médecins ont commencé à dire, ben ça doit être de l'anxiété.
Et bon.
Ma mère a vraiment là.
Tilté.
Ouais, ouais, ouais. Elle fait comme ben non, là, ça va être correct. Là. Dès que j'étais jeune, là, apprendre à marcher, faire des déplacements longs, je commençais déjà à dire que j'avais mal aux jambes. Puis mon père était comme, cet enfant est faible.
C'est impossible.
Qu'est-ce qu'on a fait? Puis mon père, grand sportif, là, genre homme à tout faire. Sa fille, on fait 10 minutes de raquette et je suis là, on arrête, ça fait mal. Mais tu sais, ça m'a pris du temps avant de comprendre que j'étais vraiment différente, si on peut dire ça. En troisième année, vu que j'avais comme 8 ans, j'ai commencé à être vraiment malade. Perdre mes cheveux, perdre mon teint. Genre devenir... Là, aujourd'hui, mettons, ben là, vous me voyez, mais je suis vraiment pâle. Comme plein de gens à Québec parce qu'on n'a pas de soleil. Mais je vais rester pâle. Genre, je pourrais aller à Punta Cana pendant 2 semaines, je reviendrai, je serais toujours la même couleur que la poupée de porcelaine. Mais j'étais pas comme ça quand je suis née.
Okay.
J'ai pas été comme ça jusqu'à mes 8 ans. Puis les gens me croient pas souvent, puis je montre des photos de moi jeune, puis c'est comme, ben voyons. Ben ouais, je vous jure.
Ça fait partie un peu de la maladie.
Ouais, on sait pas trop pourquoi. C'est une histoire de collagène, de comment ma peau traite le soleil, la vitamine D. J'en manque souvent, il faut que j'en prenne. On dirait que le soleil puis moi, on n'est pas trop en contact. Fait à comme 8 ans, là, j'ai commencé à être vraiment malade, ce qui ressemblait un peu à une mononucléose.
OK.
Là, ma pédiatre, qui a été incroyable, Marie-Claude Brousseau, a commencé à faire comme, là, c'est pas normal. On a fait une batterie de tests, là, à n'en plus finir pour pas vraiment comprendre ce qui se passait. Puis c'est là, à un moment donné, elle est arrivée à un rendez-vous, puis elle a dit « J'ai cherché dans des livres de maladies rares. » Puis je suis tombée sur ça. Puis là, il faut savoir que ce livre-là est classé en ordre alphabétique. L.R. Danlos, ça commence par E, elle a quand même fait ABCD.
Quand même, oui, c'est donné.
On lui donne. Merci Marie-Claude. Puis ce médecin-là, ben, a sauvé ma vie, parce que c'est la seule qui y croyait à ce moment-là. Puis personne ne voulait vraiment faire de recherche parce que c'était trop bizarre, c'était trop... mélangé, j'arrêtais pas de me blesser, mais comme on comprenait pas pourquoi, là, des médecins étaient comme, ben, elle est faible. Mm. Tout revenait au fait que j'étais faite sur un frame faible.
Une puis finalement, c'était plus que ça.
C'était vraiment plus que ça, ouais.
Tu passes beaucoup de temps depuis 5 ans à ce que tu appelles le village, je vais dire, de la réadaptation, l'IRDPQ. Je vais être vraiment honnête avec toi, quand tu m'en as parlé, je ne savais même pas vraiment ce que c'était parce que je sens que justement, si tu n'as pas une maladie qui te mène là ou une amputation, tu n'as pas d'affaires là. Parle-nous-en donc un peu.
Même moi, je sens que j'ai pas d'affaires là des fois quand je rentre là. Je dois, je dois être une des seules personnes à avoir mes 4 membres et marcher. Je me sentais tellement imposteur les premières fois que je suis allée là-bas. Parce que je me disais, je marche. Mm. Je marche et j'ai mes bras et j'ai mes jambes d'origine, comme on pourrait dire. Qu'est-ce que je fais là? L'IRDPQ, c'est l'Institut de réadaptation en déficience physique du Québec. Et si t'es pas amputé, si t'es pas paralysé ou si t'as pas une condition qui touche tes tissus conjonctifs, t'as pas rapport là. C'est pas compliqué. Parce que c'est vraiment ça leur spécialité, eux, c'est de faire en sorte que tu puisses ben, continuer à fonctionner comme tout le monde avec des déficiences physiques. C'est quand je suis arrivée là, ça m'a ouvert là, à ben, un nouveau monde. Ils ont comme un atelier là-haut. C'est vraiment comme un mini-village. Là. Hey, piscine, médecins de toutes sortes, atelier avec ce que j'appelle les lutins des orthèses. On se croirait au pays du Père Noël. Là.
Ils
nous attendent.
Ils fabriquent ça sur mesure.
C'est vraiment fou. Puis quand tu arrives là-bas, ils t'accueillent avec tellement de... Ben justement, de ressources que tu n'as pas vues dans les autres hôpitaux, parce que d'habitude, on dirait, ben l'orthèse, va la chercher chez Orthèse, Prothèse, Savard. C'est toujours là-bas qu'on va. Je suis au bord de me prendre un abonnement. Mais eux, ils ont un atelier déjà où ils peuvent prendre tes mesures. Il y a des gens qui t'attendent là-bas. C'est vraiment comme un petit village, là.
T'as-tu besoin d'orthèse, toi? Es-tu passé par là?
J'étais, là, une panoplie d'orthèse, prothèse, toutes ces affaires-là.
Tu mets ça quand tu sens que t'as trop mal à un endroit, tu vas venir...
Ouais, j'ai un corset comme quand j'ai trop mal au dos, j'ai des bagues spéciales pour comme bloquer mes doigts.
Mais bien non, toi?
Ouais, parce que je me luxe les doigts quand je prends les portes, quand je prends des objets, mais c'est rendu très quotidien, fait que je n'en fais pas un plat, là. Je les replace.
Oh mon Dieu, OK, fait que c'est vrai. Oh, OK, elle dit je les replace, ben oui.
Ben oui. Toutes les fois que j'ouvre une porte, mes doigts
alors, je replace, ben oui.
Ouais, on s'y habitue, mais c'est pour ça que je me suis fait opérer il y a un an pour l'index gauche, parce que justement, il se luxait, puis comme maintenant, ben là, on...
Mais attends, tu dis, quand tu tournes une poignée de porte, tes doigts lâchent.
Mais en fait, c'est parce que je vais trop loin, j'ai rien qui retient comme mes doigts, fait que mes doigts... peuvent aller vraiment loin.
Mais peux-tu, tu sais, t'as dit, là, en début de conversation, bon, je me suis full entraînée, j'étais avec un policier de la SQ, tout ça, là, ton entraînement, peux-tu, est-ce que tes limitations quotidiennes, là, je m'excuse, je vais aller dans le personnel, mais c'est parce que j'arrête pas de penser à, t'es en relation avec quelqu'un, as-tu des limitations au niveau intime aussi, tu sais, ça doit être quotidien, là.
Non, mais c'est tellement une question que les gens demandent pas, mais qui est full vrai, là. C'est applicable, là, parce que c'est quelque chose qui est, tu sais, dans une relation... normal là, d'avoir des relations sexuelles. Oui, j'ai des... Mais j'ai... Hey, je suis super élastique, là, premièrement.
Là. regarde, on va me donner ça au moins. Là.
Tout qu'un cas, là, je vous dirais. Mais c'est sûr qu'il faut que je fasse attention. Puis ça m'arrive des fois, c'est comme « wow, 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 je vais me déboîter la hanche, là, on va se calmer. »
Oh boy!
C'est comme... Puis c'est niaiseux, mais moi, ça me demande... tu sais, j'ai des conditions aussi cardiaques, tout ça, qui est relié à Ehlers-Danlos, qui sont comme des frères et sœurs de la maladie. Là, fait que c'est la loterie. Des fois, t'es as, des fois, t'es as pas. Moi, je l'ai. Puis ça fait que ça me demande tellement d'énergie. Là.
Ah, mais j'en doute pas, toi, t'es brûlée.
Fait que moi, le sexe le matin, ça sera pas possible là, parce que la journée... Ben non, ça peut arriver, là, mais pour vrai, c'est qu'après, ça handicape ma journée. Je suis fatiguée, je vais faire une sieste.
Excuse-moi, j'ai une relation le matin, je peux plus t'offrir, ça va pas.
Après, je suis épuisée.
J'ai envie qu'on traite en terminant parce que tu l'as dit, c'est une maladie orpheline. Puis tu me parlais qu'il y avait un combat pour tout ce qui était des subventions ou de l'aide ou du fait d'être couverte parce que c'est pas... officiel dans les listes gouvernementales comme maladie?
C'est atroce. C'est pas... Il y a pas de recherche assez pour prouver... Dans le fond, quand ce soit des bourses, des subventions par le gouvernement, c'est basé sur ce qu'ils ont évalué comme besoin. Tu sais, par exemple, s'ils évaluent que tu as besoin de physiothérapie tant de fois par semaine, ben tu vas avoir un montant qui est quand même relativement correspondant aux besoins que tu as comme dépenses. Étant donné que Ehlers-Danlos, c'est déjà pas connu. Là, en plus, moi, j'ai une source par rapport. Ben, c'est pas connu du tout. Fait qu'ils font dire que ben, y a pas de recherche, pas d'argent.
Fait que ça coûte excessivement cher d'être malade.
Ça coûte tellement cher. Puis en ce moment, je suis sur les assurances de mes parents parce que j'ai encore 23 ans puis je suis bien chanceuse. Mais là, je vais finir d'étudier. Si mettons, Leclerc évalue que je suis pas assez nécessaire dans la station pour l'instant, t'sais, si j'ai pas de job en sortant de mon stage, mais moi, j'ai plus d'assurance. Je suis plus couverte par mes parents. Fait que je vais tomber sur la RAMQ, mais la RAMQ, je prends des traitements super bizarres qui sont pas super connus encore, donc ils sont pas couverts à 100%, qui coûtent une beurrée.
Fait que ça va être un challenge toute ta vie.
Ça va être un challenge toute ma vie, donc j'espère bien me trouver un emploi où je vais pouvoir être stable, parce que cette stabilité-là, c'est niaiseux, mais ce stress-là, il est là, il existe. Puis quand tu prends le mur de l'âge adulte, ben puis tu réalises que t'auras pas de subvention, c'est stressant. Genre sans blague.
Ariane, j'ai envie de te laisser le mot de la fin avant qu'on termine l'open mic. J'ai vraiment trippé qu'on prenne le temps de jaser de ton intimité parce que ça fait quand même partie de secrets normalement que tu t'écris pas dans le front. Là.
Non, ben je pense que c'est ça en fait que j'aimerais dire. Souvent là, on regarde les gens et on sait pas leur histoire. Ehlers-Danlos, c'est une maladie qui est invisible. on la voit pas, on la sait pas, on la connaît pas. Quand je le dis, ça n'explique rien aux gens. J'ai envie de vous dire que un handicap, c'est là puis c'est valide même si c'est invisible. Mais pour vrai, fiez-vous pas aux statistiques. S'il y en a comme moi qui ont des maladies bizarres, puis même qui ont des maladies connues, regardez-les pas les statistiques parce que c'est pas la vôtre. Je suis ma propre statistique puis j'en ai vraiment rien à faire des chiffres. Je vais marcher longtemps. Puis je vais faire tout ce que je veux faire parce que, hey, je suis rentrée en ambulance. Puis personne n'y croyait.
Mm. Ariane Bourbeau, stagiaire à Boulevard 101, beaucoup plus que stagiaire chez nous, je tiens à le dire. Merci d'avoir pris le temps ce matin.
Merci de m'avoir reçu.
Merci, puis fais attention en ouvrant la porte pour sortir. Là.
Promis, Max, promis.
J'ai envie de ramasser les doigts à terre. Là.
T'as tout gâché.
J'ai rien gâché. J'ai fini ça sur une belle note joyeuse. Merci, Harry. Merci, Audrey. On t'écoute dans le retour dès 14h. De notre côté, on s'en va en nouvelles dans les prochaines minutes. Pascal CV va venir faire son tour de fin d'émission aussi. Et on jase du Canadien qui connaît maintenant sa destinée très précisément pour la première ronde des séries de la Ligue nationale. De hockey. 11h23, vous écoutez le Point de Max jusqu'à midi. Le Point de Max.